Oui, bonjour. Oui, je fais un peu partie de la maison puisque je suis au conseil scientifique,
en plus, oui.
Dont nous attendons avec impatience la prochaine réunion. Je ferme cette parenthèse interne. Le 17 mars, c'est noté dans l'agenda, mais on croyait qu'on nous avait oublié, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, je ne vais pas soulever des problèmes majeurs. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, j'ai travaillé longtemps à l'INRP. J'ai mis sur ce petit, donc cette première page de ce PowerPoint, vous avez, je ne sais pas si ça vous l'a, il y a des copies qui ont été faites.
Oui, oui. Oui.
Le gros tas qui est ici, c'est la copie de mon PowerPoint, tel qu'il a été fait, envoyé à Nicole il y a 36 heures, avec déjà quelques modifications, puisque je reprends régulièrement ce que je me propose de faire, et je le modifie, mais pas trop, hein. Il y a quelques diapos de plus et quelques diapos de moins. Voilà. Alors, je dis pauvre point parce que je ne maîtrise absolument pas les techniques, donc vous aurez cette espèce de banalité qui consiste à avoir des textes qui défilent sur l'écran, mais ça permet probablement de mieux suivre. J'ai mis citoyen français, donc je suis à l'Université de Genève comme professeur et je travaille sur les didactiques des sciences sociales, histoire, géographie et citoyenneté, de la même manière que je le faisais quand j'étais à l'INRP. J'ai insisté sur l'idée citoyen français et européen parce que je suis citoyen européen pour deux raisons. La première, c'est le fait d'appartenir à un pays de l'Union européenne. Et le deuxième, c'est le fait d'appartenir à un pays qui a adhéré au Conseil de l'Europe. Et ce qui me donne, on pourra en redébattre, deux dimensions d'une citoyenneté européenne. Jusqu'à quelle heure ?
Tu as 40 minutes.
D'accord. Bon, je vais essayer de tenir. Alors. Donc, citoyen français et européen. Et comme citoyen, évidemment, quand je réfléchis aux questions européennes, je ne suis ni géographe, ni économiste, ni historien. J'essaye de vivre une citoyenneté dans l'espace public qui est fondamentalement non disciplinaire ou adisciplinaire. Peut-être que nous pourrons revenir sur cette question. Alors, mon intention, puisque le titre que Nicole m'a demandé de traiter ou m'a proposé, c'est éducation à la citoyenneté et enseignement de l'Europe. Donc mon intention est d'examiner la rencontre de ces deux termes avec donc les quatre points successifs que je vais m'efforcer de traiter. Vous n'aurez pas, probablement pas, à la sortie de mes propos, l'impression d'avoir entendu quelque chose de très construit avec un mouvement linéaire qui avance vers plus de complexité ou de résolution de problèmes. C'est beaucoup plus des flashs à partir de beaucoup d'interrogations que cette question, aussi bien de l'éducation à la citoyenneté que l'enseignement de l'Europe peut poser aujourd'hui. Nicole parlait tout à l'heure de structurer les débats grâce à vos interventions de ce matin. J'espère que mon voisin de droite pourra les structurer parce que moi je suppose que je vais plutôt les déstructurer, mais je prends le risque. Évidemment, je parlerai peu des pratiques en tant que telles. Ceci dit, derrière beaucoup de mes propos, il y a des références à des recherches anciennes ou des recherches actuelles. Donc c'est aussi dans le travail des ateliers et dans les interventions de ceux qui sont dans des recherches de terrain que vous rencontrerez aussi la manière dont les acteurs s'emparent de cet objet, dont vous vous emparez de cet objet les uns les autres et dont finalement dans les classes, j'emploierai le terme volontairement, nous bricolons des réponses. Hein, moi aussi j'enseigne et je vois très bien la distance qu'il y a entre les petites choses modestes, partielles, limitées, que je peux faire dans mes temps de formation, mes temps d'enseignement, et puis les grands discours, les discours plus généraux que nous pouvons avoir sur notre enseignement et surtout sur les objets que nous enseignons. Je commence très rapidement, peut-être en défilant ces diapos. Ce sont des évidences, vous en entendrez peut-être beaucoup pendant ces quelques 40 minutes. Ce sont des évidences, l'Europe est un objet de nombreuses controverses. Le résultat, c'est que c'est quelque chose qui est instable. Et donc, c'est un des défis que vous affrontez, que nous affrontons dans notre enseignement, que cette idée peut-être un peu nouvelle depuis une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, d'avoir à enseigner des savoirs beaucoup plus instables dans une perspective et dans un projet qui se cherche des lignes de force, alors que pendant très longtemps, encore que là, il faut surtout pas mythifier le passé, mais on a l'impression que nos disciplines étaient dans une certaine stabilité, et je mettrais volontiers les disciplines littéraires aussi dans cette idée de stabilité. Voilà. Alors, j'insiste quand même sur les deux dernières puces. Ça porte nos divergences et nos passions. Et l'Europe est quelque chose qui divise nos sociétés, et sans doute nous aussi, ici présents. Hein, c'est-à-dire que derrière l'instabilité en termes de savoir, il y a d'abord la rencontre entre l'Europe, le projet européen, et les acteurs, les habitants que nous sommes. Et c'est donc cette rencontre, elle est dans la question aussi, ou la prise en compte de ces questions de divergence. Alors, l'autre idée, l'Europe, horizon de nos sociétés européennes, j'ai mis un point d'interrogation. Peut-être qu'il y a 20 ans, puisque j'avais déjà écrit, notamment dans Recherche et Formation, quelques textes sur le sujet, peut-être qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas mis le point d'interrogation. Hein. Et c'est peut-être aussi ce qui complique encore plus notre situation aujourd'hui. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'interrogation. Mais cette idée d'un certain horizon de nos sociétés européennes n'apparaissait pas comme aussi difficile aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, le résultat, c'est que ce n'est pas une évidence, hein, et que ce n'est certainement pas non plus un seul niveau d'échelle à ajouter. Quand on regarde le curriculum, le national curriculum anglais, c'est quand même très intéressant, parce que l'Europe, c'est un niveau d'échelle supplémentaire. Hein, vous avez l'Angleterre, le Royaume-Uni, hein, l'Angleterre au sens limité, le Royaume-Uni, l'Europe, le Commonwealth, c'est le monde. C'est jamais qu'un niveau d'échelle supplémentaire, sans qu'on lui attribue un quelconque privilège ou un quelconque place pour un projet plus fort. Donc on se trouve entre ces questions d'expertise, les décisions politiques, je reviendrai beaucoup sur ce terme de décision politique, les connaissances et les choix citoyens qui relèvent justement d'une décision. Je vais vous citer trois propos très récents, trois et pas deux. Hein, j'aurais dû changer ma plume parce que justement j'en ai rajouté un, hein, mais je crois que vous l'avez celui-là. Plus récent, parce que ça, si je vous cite ces trois propos, c'est bien pour poser une des questions que vous affrontez, que nous affrontons quand nous étudions des thèmes contemporains, tout à fait contemporains, c'est la prise en compte, c'est la légitimité des discours, c'est sur quoi appuyons-nous nos propos. Quels sont, qui a droit à la parole et qui a droit à cette légitimité de la parole. Il y avait récemment un débat sur France Culture sur le problème des manuels en sciences économiques et sociales, et il y avait deux économistes connus, Pascal Salin, plutôt libéral, pur et dur, et puis Jacques Généreux, que peut-être certains d'entre vous ont lu, et c'était fort intéressant, parce que Pascal Salin citait le fait que des études de manuels montraient que les deux journaux, les deux sources les plus mobilisés pour cette initiation à l'économique et au social, et l'Europe en est aussi dans cette perspective-là, étaient Alternative économique et Le Monde. Et que Le Figaro devait avoir quatre, dans un nombre indéterminé de manuels que j'ai pas retenu, mais il devait y avoir quatre extraits du Figaro contre quelques centaines du Monde. Donc on voit bien aussi cette légitimité de certaines paroles qui nous vient, et on est dans cette interrogation. Hein, quand on travaille sur ces objets, finalement, qui croire presque, hein. Alors, premier propos, je vais vous le lisez vous-même, donc je vais pas vous le lire. Mais je retiendrai simplement l'idée que c'est faiblement exaltant. Et si c'est faiblement exaltant, on voit bien le problème pour exalter nos élèves, hein, bien évidemment. Si c'est faiblement exaltant pour le citoyen, on peut imaginer que nos braves élèves, et pas seulement à Rodez, c'est pas l'enthousiasme ou c'est pas l'adhésion spontanée. Alors, vous me direz certainement qu'il y a bien des objets dans nos enseignements qui ne sont pas très exaltants. Bon, un de plus, un de moins, d'accord. Enfin, quand même, hein, il y a bien cette difficulté qui est à affronter. Deuxième citation, c'est à propos de la Belgique. Alors, je l'ai choisi, c'est, vous voyez, très récent d'après les dates. Hein, celle-là, elle est quasiment de la semaine dernière. Je l'ai choisi parce qu'elle est intéressante dans la part de son auteur, qui est finalement argumente, hein, son propos à partir de son expérience. Hein, je connais la force du sentiment flamand, je suis en contact avec de nombreux francophones. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'argumentation que ce chercheur, que cette personne, je vous dévoilerai les noms tout à l'heure, mobilise, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs ont-ils lu ses interviews dans le journal Le Monde. Vous voyez, j'ai pas cité Le Figaro, je suis désolé, hein, je suis resté au journal Le Monde. On va voir l'avenir du monde, hein, pour si jamais s'il est racheté par je sais plus qui, Lagardère, peut-être qu'on sera obligé de passer au Figaro bientôt. Bon, donc je ferme ma parenthèse. Et donc cette idée, c'est le point de vue très très subjectif et très interrogatif de cette personne, avec cette idée qu'il peut pas, il peut pas penser que l'histoire n'ait pas laissé de traces. Et je pense que là, c'est aussi quelque chose qui nous interroge, enfin moi qui m'interroge très profondément dans ce rapport entre passé et présent. Parce que l'histoire, c'est aussi penser les ruptures, c'est aussi penser les discontinuités. Hein. Et je sais, vous savez, comme moi, qu'un certain nombre d'historiens aujourd'hui sont un peu dans cette idée qu'il y aurait une grande rupture au moment de la révolution néolithique et que nous serions en train de vivre dans l'histoire de l'humanité aussi bien à travers l'urbanisation croissante, hein, et le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la majorité de la population habite dans les villes, mais aussi toute la question du numérique, toute une mondialisation qui a peut-être eu lieu déjà au 19e, mais il faudrait voir quand même les différences très très fondamentales, hein, avec celles du 19e, etc., etc., que nous serions en train de vivre une rupture tout à fait fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Alors je laisse aussi la question totalement ouverte, c'est un problème d'interprétation. Troisième et dernière citation, qui peut là encore susciter bien des débats, c'est à propos des médias nationaux, et quelqu'un qui affirme « Pourquoi parler d'Europe ? Parce que l'histoire des nations se termine ». Alors, je remercie Gérard Hugoni de nous avoir rappelé que les géographes sont quand même accrochés à la France. Hein. Là aussi, grand débat. Hein. L'histoire des nations se termine et l'histoire de l'Europe est à peine commencée. On est là aussi dans un autre projet et avec des affirmations. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Hein. De la même manière que le deuxième paragraphe, c'est la jeunesse. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse ? On est dans des généralités, on manie et on manipule dans nos enseignements constamment des généralités. Et comment faire place à la fois aux généralités et à une certaine diversité sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Alors, les trois auteurs, les voici dévoilés à votre attente fébrile. Le premier, c'est Jean-Louis Bourlange, député européen centriste, etc., qui participe d'ailleurs aussi à une autre émission, je crois, tous les samedis matins, etc. Christophe Pomian, que vous connaissez, et puis Philippe Caïla, qui est PDG d'Euronews. Alors, si j'ai pris ces trois exemples, à part le fait qu'ils étaient récents, c'est aussi cette idée que le premier, c'est un politique. Alors, quelle est la légitimité d'un politique? En général, on se dit pour nous, question d'objectivité, d'équilibre, de diversité de point de vue. J'aurais dû vous en citer un autre. Hein. Tandis que le chercheur... Alors, le chercheur, hein, est-ce que la parole du chercheur... Mais on avait aussi que cette parole avait une construction qui était très très subjective, entre guillemets, hein, qui renvoyait à son expérience avant de renvoyer à des arguments, entre guillemets, scientifiques. Et puis le PDG de Euronews, on a un autre point de vue qui est celui finalement d'un acteur au sens de produire de l'opinion, hein, qui produit de l'information et qui produit donc aussi de l'opinion. Alors, diapo suivante, ben, c'est rappeler que nos élèves, comme les autres habitants de l'Europe, ben ils sont... Alors, je les distribue à partir de ces qualités, de ces qualificatifs. On pourrait trouver bien d'autres manières, hein, bien sûr. Mais c'est quand même de rappeler ça, parce que les euro-convaincus et les euro-hostiles, ils sont dans nos classes, hein, et que l'intérêt pour l'Europe, là aussi, c'est la question de la prise en compte des acteurs et des personnes, hein, sur lesquelles je reviendrai également. Alors j'ai rajouté hier deux diapos que vous n'avez pas, et qui fait référence à un ouvrage dont j'ai mis la référence ici, et que je crois intéressant parce que cet ouvrage que certains d'entre vous connaissent sûrement, il nous montre, il nous dessine. Alors, les enquêtes qui sont là sont de 90 et 99, et puis une antérieure de 81. Donc, il y a à la fois l'idée d'une comparaison, d'une continuité, puis en même temps, bon, c'est le problème du temps de traitement des enquêtes. Elles ont presque 10 ans. Alors, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé? Évidemment, chacun d'entre nous est persuadé d'avoir des tas d'idées sur ce qui a pu bouger. Alors, j'ai mis un certain nombre de conclusions ou de thèmes importants qui reprend cette idée que nous avons affaire à des élèves et nous avons affaire à une Europe avec des acteurs qui ont aussi leurs opinions, leurs valeurs, leur manière de penser. Alors, l'importance des cultures nationales, je laisse de côté. Le déclin du sentiment de solidarité classique. Hein, ça ne veut pas dire du tout que les jeunes générations sont solidaires, mais ça aussi, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont rencontré et le connaissent. On est quand même dans cette idée que la solidarité à travers justement les grandes institutions que sont la sécurité sociale, que sont tous les dispositifs de l'État-providence, est quelque chose qui commence à décliner, hein, en termes d'adhésion. L'autre idée importante, c'est la segmentation de la société, et puis quelque chose qui est plus récent, c'est pour ça que je l'ai mis en italique, c'est ce concept de sécession des élites. Hein. Et cette idée comme quoi les élites qui autrefois prenaient en charge, alors est-ce qu'il faut revenir à l'État national hein, d'un certain point de vue, mais les élites qui exprimaient une certaine solidarité, y compris avec les classes populaires en termes de transferts sociaux, etc., eh bien semble-t-il aujourd'hui seraient en train de quitter, alors elles se mondialisent, elles se mondialisent très vite, et finalement elles quittent les systèmes de solidarité pour se construire un autre espace. La jet set, ça fait partie des termes un petit peu populaires pour dire ça, mais il y a un certain nombre d'études de sociologues qui sont très intéressantes de ce point de vue-là. Importance de la socialisation par les groupes de pairs. Ça aussi, nous le vivons dans les établissements scolaires, hein, très fort. Et ce que met en évidence l'enquête, c'est que c'est supérieur à la socialisation par la famille ou par l'école. Hein, et qu'il semble que les groupes de pairs aient un poids qui soit beaucoup plus fort. Alors, on en est face à ça. Hein, et puis, il faut essayer d'affronter ce genre de choses. Le souhait de davantage de liberté et de normes relationnelles dans la vie privée, et plus de règles et de normes institutionnelles dans la vie publique. Hein, ça me semble là aussi quelque chose qui est très important. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint... par exemple, certaines conclusions que l'enquête Jeunes et Histoire, que Nicole Tutiot-Guillon et puis José-Marie Mousseau avaient traité et publié à l'INRP il y a déjà 14 ans, mes cheveux blancs. Et donc, c'était cette idée déjà qu'il y avait une dissociation entre les élèves qui majoritairement pensaient que leur vie privée, leur vie personnelle serait positive, intéressante, qu'ils auraient des amis, un bon métier, et que la vie collective, ce serait pas terrible. Il y aurait plus de pollution, plus d'insécurité, plus, hein, d'éléments négatifs. Alors, ce sont des tendances, là encore, hein. Mais c'est ce sentiment de séparation. Et il est intéressant pour nous, parce que nous ne parlons pas dans nos enseignements de la vie privée des personnes. Nous sommes bien dans quelque chose qui traite de collectif, de la vie publique. Hein, et que dans ces enquêtes, cette idée d'une demande de règles, d'une demande de sécurité. Alors ça peut aussi expliquer certains votes majoritaires, par exemple dans certaines élections chez les jeunes hommes entre 18 et 35 ans. Je ne vous rappelle pas pour qui ces personnes ont voté lors d'élections récentes. Donc, liberté morale privée contre rigorisme public, désintérêt croissant pour les formes traditionnelles de la vie politique, ça ce sont des choses connues, renforcement des perceptions pessimistes, je viens d'en parler, adhésion à la démocratie, mais une démocratie qui reste assez vague. Alors, de 90 à 99, les enquêtes aussi en question montrent, alors c'est très général, c'est l'Europe, il faut nuancer, il y a des différences, encore une fois, à la fois internes et externes, hein. Un déclin des valeurs écologistes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, avec le battage, tout ce qui s'exprime autour des questions de réchauffement climatique, on aurait une modification? Je laisse la question ouverte. Diminution du sentiment d'appartenance à l'Europe, avec justement une inversion de courbe. Hein. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, il y a 20 ans, j'aurais peut-être pas mis de point d'interrogation. Hein. Aujourd'hui, on met un terrible point d'interrogation. Et que donc le regain des années 80, à ce regain du sentiment d'appartenance succède une mise à distance critique. Alors au-delà des différences nationales, l'enquête est dans la conclusion, conclut à une individualisation croissante avec deux principes qui poussent majoritairement, qui est le principe électif et le principe de proximité. Alors le principe électif, ça consiste tout simplement à dire que chacun... se dit autonome et se dit choisir ses relations, choisir ses valeurs, choisir ce à quoi il adhère, et non plus être porté par justement nos institutions, nos écoles, nos projets, etc. Et puis le principe de proximité, c'est l'idée que ce qui compte d'abord, c'est un peu le paradoxe avec cette ouverture au monde, mais ce qui compte d'abord, c'est les personnes avec qui nous sentons proches, ce sont nos espaces proches aussi, hein. Et on sait bien que la reconnaissance d'une appartenance à la ville est plus forte, hein, comme il est dit plus haut, ou à la localité et au pays est bien plus forte que d'autres niveaux d'échelle de reconnaissance. Donc principe électif et principe de proximité, qui semble accompagner ce mouvement très massif, alors dans tous les pays européens, d'individualisation croissante. Alors ça nous donne bon quelques idées aussi sur ces mouvements de valeurs, d'adhésion, de distanciation chez nos élèves. Deuxième point de la relation entre l'Europe et la citoyenneté, la question de l'éducation à la citoyenneté. Alors je vais rappeler très rapidement le noyau dur, vous l'avez sous les yeux. J'insiste beaucoup, souvent, et ceux qui ont lu quelques textes que j'ai pu écrire ont retrouvé ça comme une incantation, mais comme un rappel permanent, ce noyau dur sur ce statut lié à une nationalité. Je disais à mon voisin tout à l'heure que le trader, dont j'ai oublié le nom, la première chose qu'on lui a faite, c'est de retirer le passeport. Hein, ce qui me semble là aussi très intéressant de travailler avec nos élèves. Nous n'avons pas le droit de sortir des frontières de l'État, de notre communauté politique, si l'État ne nous y autorise pas. Hein? Et donc le passeport, il ne nous appartient pas. Hein? Ça nous donne le droit de sortir et ça donne l'obligation à l'État de nous accueillir quand on rentre. Mais le passeport, encore une fois, ne nous appartient pas. Et il est bien cette marque d'une importance de nos appartenances à une communauté politique. Alors il y a donc trois dimensions fortes. La dimension juridique, donc des droits et obligations, la dimension politique, et puis cette question de l'appartenance qui est beaucoup plus floue, qui renvoie aux problèmes d'identité qui ont été posés un grand nombre de fois dans le tour de table de tout à l'heure, et que là aussi est un vrai concept compliqué, je dirais deux mots à l'instant. Alors qu'est-ce qu'on fait des étrangers? Parce que dans nos classes, nous avons des étrangers. Mais les étrangers, ils appartiennent à une communauté politique. Ils appartiennent à la communauté politique de la nationalité dont ils font partie. Donc, moi, me semble-t-il, c'est pas la peine non plus de jouer sur une égalité des droits. Je suis citoyen... alors, on dit pas immigré, hein, pour les cadres, on dit... expatrié, voilà, c'est ça, hein, expatrié. Donc, je suis expatrié, je n'ai pas les mêmes droits que les collègues suisses avec qui je travaille. C'est un fait, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Hein, je ne suis pas citoyen helvétique, je ne suis pas citoyen genevois plutôt, avant d'être helvétique. Et donc, oui, on est d'abord de la ville et du canton, hein, avant d'être suisse. Et donc, je n'ai pas les mêmes droits, tout simplement. Hein, notamment un droit de réserve sur les débats politiques, indépendamment du fait que je ne peux voter que dans la commune de résidence. Alors, pour quel but vivre ensemble, je laisse la question ouverte. Je fais place dans cette diapo à une autre conception. Et il y a bien un conflit, me semble-t-il, aujourd'hui, qu'on peut observer. Alors là, ça nous entraînerait très très loin. Mais une autre conception de la citoyenneté qui consiste à déclarer, vous le trouvez dans un certain nombre de textes du Conseil de l'Europe, pas ceux que j'ai pu rédiger pour le même Conseil, mais vous trouvez sur le projet éducation à la citoyenneté démocratique, cette affirmation selon laquelle le citoyen, c'est toute personne qui vit avec d'autres en société. Alors, on est là dans un, à mon avis, dans un concept extrêmement flou, et le résultat, c'est que l'éducation à la citoyenneté, c'est une éducation vivre ensemble. Je n'ai pas parlé du socle commun. Hein. Donc c'est une vague éducation vivre ensemble. Il s'agit de pacifier les relations. Il s'agit d'être sûr que personne ne se tape dessus et on développe la tolérance et le respect. Et puis c'est bon. Hein. Le reste, c'est à chacun de faire preuve d'initiative dans une société qui devient plus une société de contrat qu'une société de loi égale pour tous. Bon, tout ça, c'est un énorme débat que je ne fais que pointer très très rapidement. Alors, l'éducation à la citoyenneté, j'y arrive, c'est une éducation au droit et une éducation au pouvoir. Là aussi, je ne fais rien que reprendre des éléments que j'affirme souvent. Et puis, c'est la question de l'appartenance, les identités. Alors, dans le même article, Jean-Louis Bourlange rappelle que 90% des politiques et 98% des financements des politiques publiques restent nationales. Hein? Alors, c'est bien l'Europe, hein? C'est bien. Mais peut-être aussi faut-il prendre la mesure de ces données-là. Hein? Donc, 90%, je reprends, des politiques et 98% des financements. Alors nous avons évidemment des tas de choses, des tas de concepts, des tas d'idées à approfondir, appartenance, identité, avenir, les liens passé-présent. Alors deux petits commentaires sur l'identité. Il me semble qu'on peut travailler autour de trois dimensions de l'identité. La question de l'identité narrative que tout le monde connaît, Brunner, Ricoeur, etc. Donc je renvoie à ces questions. Alors la question du récit, elle est tout à fait passionnante aujourd'hui, hein, avec il y a eu un numéro de pratique, hein, que je vous conseille de lire sur le sujet, mais surtout, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu l'ouvrage, qui s'appelle Storytelling, et qui montre aussi comment notre vie politique est complètement devient complètement une, on n'est plus en train d'argumenter sur des projets, on est en train de raconter les histoires de nos personnalités politiques. Je donne évidemment aucun exemple précis, vous les mettrez vous-même. Donc cette question de l'identité narrative et de la question du récit, des récits personnels, collectifs, de leur articulation, qui est un thème très très porteur aujourd'hui. Deuxième aspect de l'identité, et là je ferai référence aux travaux d'Erwin Goffman, c'est une identité spatiale, territoriale. Alors, je ne vois pas tout de suite les géographes qui vont s'emparer de la question, qui s'en sont déjà emparés. Et puis, on peut rappeler aussi cette question de la proximité. Hein. Donc, une identité qui est liée aussi, qui a une dimension spatiale très très forte. Et puis, la dernière, que j'emprunterai à un autre chercheur, Jean-Claude Kaufmann, le sociologue souvent médiatique, mais qui parle d'identité pragmatique, c'est-à-dire d'une identité qui est liée à l'action, hein, et qui me semble aussi aujourd'hui extrêmement importante, parce qu'elle est complètement tournée vers le présent et vers l'avenir, hein, vers les actions possibles, vers ce qu'on peut faire ensemble. Alors là aussi, on pourrait parler, on pourrait débattre longtemps de toute l'importance aujourd'hui de la pensée pragmatique qui ressurgit comme une pensée de référence dans de nombreux cadres. Alors quant à l'histoire, eh bien, je m'interroge et j'ai envie de poser la question aux historiens, mais je n'y répondrai pas. C'est finalement en quoi le fait de me penser des racines helléniques, judéo-chrétiennes, des racines venant des Lumières, en quoi tout ça, ça m'aidera, moi et mes contemporains, à poser, à construire et à résoudre les problèmes que nous rencontrons dans la société. Et je dois dire qu'au-delà de quelques grandes déclarations de principe, je m'interroge, hein, sur cette relation. Alors évidemment, on a tous ici une culture historienne, alors on est tous persuadés que c'est important. Mais si on quitte un peu nos mondes, et si on s'intéresse à d'autres personnes, ben on s'aperçoit que les dimensions historiennes, c'est très très bien pour le samedi et le dimanche, ou le soir quand on lit un roman, mais que c'est pas ça qui aide à la décision, et justement à cette identité pragmatique. Et puis l'idée de partage des problèmes, l'idée de partage des questions, elle est en deux sens, me semble-t-il, au moins. Un premier sens, ce sont des questions proches. Par exemple, toute la problématique des banlieues, pour prendre un lieu commun, est quelque chose qui est très partagé dans tous nos États européens. Cette question des banlieues, difficile, elle existe partout. Il y a à Zurich, en Suisse, des quartiers dans lesquels pas grand monde ne se risque d'aller si on n'est pas du quartier. Hein, bien sûr, on n'en parle pas trop, tout ça. Hein, la Suisse est un pays lisse. Mais ça existe partout. Il y a eu récemment, là aussi, dans le quotidien que je citais, un article sur les effets de bande dans les banlieues anglaises. On a, hein, tout un mouvement très, très important de ce point de vue-là. Donc nous partageons avec nos compatriotes, je dirais presque européens, nous partageons toute une série de questions. Alors là, on peut échanger nos expériences. Mais la résolution, en quoi la résolution de ces problèmes ou des problèmes posés dans ces cadres de vie fait-elle appel aux autres, ça reste une question très ouverte. C'est d'abord des solutions locales. Et puis, nous avons des questions qui se sont posées, dont la résolution implique une coopération. Je citerai juste un exemple, c'est tout le problème du droit maritime. Toute la question de la navigation, hein, puisqu'on a eu le procès Total il n'y a pas longtemps, la construction d'un droit maritime ne peut pas être décidée à l'Élysée ou à Versailles. Hein, il faut nécessairement une coopération entre les États, voire des pressions des opinions publiques. Hein, mais on voit bien, hein, qu'on va se mobiliser en Espagne quand il y a une marée noire, mais que ça touche pas forcément beaucoup les autres États, etc. Mais c'est bien aussi la construction d'objets communs qu'il faut affronter en commun. Donc on partage, mais on partage de manière différente, hein, avec nos voisins européens. Alors, une autre construction que je ne vais pas développer, sur laquelle je vais sauter, puis que vous avez à disposition, c'est l'idée de partir ou de renverser le propos et de partir de ces questions de compétences citoyennes. Donc ça, c'est un texte que j'ai fait pour le Conseil de l'Europe et qui est consultable sur le dit Conseil, sur le site du dit Conseil. Je voudrais juste insister sur une chose, c'est que toutes ces compétences, elles ne sont pas disciplinaires. Hein, c'est bien une des questions qui nous est posée, c'est peut-être sur celle-là qu'on va retrouver sur la fin. Alors ensuite, je vais passer aussi, parce que le temps roule, hein, la citoyenneté à l'école, trois formes de présence, je vous laisse voir ça parce que ce sont des choses fréquentes. Je vais peut-être m'arrêter juste un tout petit moment sur une comparaison de curriculum. Là aussi, si vous êtes intéressé, c'est un texte que j'ai fait dans le cadre d'un projet Comenius et qui est téléchargeable. En comparant quelques curriculums d'un certain nombre de pays d'États européens, j'ai constaté, ou on constate aisément, ces éléments. Le premier, c'est qu'il y a, il y a peu de droits. Hein, donc la citoyenneté, je l'ai beaucoup référé, même très rapidement, à la question du droit et du juridique, et on voit dans les curriculums qu'on ne sait pas quoi faire de cette question du droit. Alors, droit très abstrait, pas abstrait, là encore, chacun sait que les mathématiques, ce n'est pas abstrait du tout, donc c'est un argument difficile. Deuxième puce, discrétion de l'Europe. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce n'est jamais qu'un niveau parmi d'autres. C'est-à-dire que le niveau identitaire, il est local, il est éventuellement national au sens de région, si je prends l'Espagne, et puis il est étatique national, mais la question de l'Europe, c'est jamais qu'un niveau, je ne redéveloppe pas. Troisième présence que je note pour nos débats ou notre travail, c'est l'idée d'un changement du régime des savoirs. Alors j'ai parlé des compétences tout à l'heure, et là on est dans un mouvement de longue durée qui est initié depuis une quinzaine d'années, que je pourrais aussi développer beaucoup plus longuement, mais l'appel aux compétences transforme en principe notre manière de poser les savoirs. C'est-à-dire que les savoirs enseignés à l'école n'ont plus comme objectif de fait, même si nous désirons autre chose, mais n'ont plus comme objectif de fait la résolution de problèmes scolaires. La maîtrise des savoirs, elle, en principe, ne se ferme pas sur elle-même. Je dis bien en principe, parce qu'encore une fois, on a toujours affirmé que c'était pour autre chose. Mais toute la construction était faite à partir des savoirs disciplinaires et dans la perspective d'une maîtrise de savoirs disciplinaires. Et la référence aux compétences, c'est inversé. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la capacité de l'individu de mobiliser en situation un certain nombre de ressources pour résoudre, pour faire face aux situations, pour résoudre les questions qui sont posées, pour y répondre, pour agir, pour prendre des décisions, etc. Et donc le savoir, dans cette perspective-là, ce n'est jamais qu'une ressource parmi d'autres. Et les situations sociales que nous avons à affronter, et ça reprend ce que je disais sur le fait que comme citoyen, je ne suis pas disciplinaire, eh bien les situations sociales, les situations de vie que nous avons à affronter ne sont pas des situations disciplinaires. Et que donc là, si on pousse, si on va jusqu'au bout de la logique des compétences, on devrait arriver à ce renversement et à lier les compétences avec des situations. Alors ça encore, c'est aussi une question ouverte, et on voit bien comment le socle commun, il hésite. Hein. J'ai assisté dans cette même salle à un colloque ou une réunion de travail, un séminaire sur les compétences l'année dernière avec Jean-Louis Martineau, et l'inspectrice générale qui nous a présenté le socle commun, elle nous a présenté la pédagogie par les objectifs d'il y a 30 ans. Hein, c'est-à-dire que les compétences sont un moyen de recycler la pédagogie par les objectifs, et on ne pose absolument jamais la question des situations. Je ferme ma parenthèse provocatrice, j'espère. Alors ensuite, autre élément très présent, c'est l'expérience du sujet. Hein, c'est l'idée que l'on apprend en faisant. Et ce qui est mis en avant, c'est cette expérience majeure du sujet. On n'est plus dans l'idée qu'il faudrait ou qu'on serait dans une présentation ordonnée hein, des savoirs et des connaissances, j'avais pu le modéliser comme modèle habituel de notre enseignement en France, là aussi dans un article de recherche et formation qui a une quinzaine d'années. On fait appel à l'expérience du sujet. Il s'agit de mettre le sujet, l'élève, en situation d'expérience, en situation qu'il devra affronter, et les connaissances vont se construire dans la résolution de la situation. Alors il s'agit d'introduire la vie et la question de la polydisciplinarité. Alors le temps passe et évidemment je suis trop gourmand. Alors, je vais passer sur ces diapos pour introduire. Il me reste quoi, 5 minutes, c'est ça? Bon, je vais revenir sur les diapos de la troisième partie pour rappeler, là encore, ce sont des choses qui sont probablement connues par beaucoup d'entre vous, c'est que notre enseignement de l'Europe et notre éducation citoyenne ou à la citoyenneté ou civique, elle est aux prises avec ce qu'un certain nombre de chercheurs, historiens et sociologues ont appelé et appellent la forme scolaire. Alors, j'en rappelle quand même pour ceux qui sont plus à distance de ces travaux, quelques aspects de cette forme. La forme scolaire, c'est donc, c'est mis en place depuis le XVIe siècle, stabilisé à la fin du XIXe, et nous vivons sous cette forme. C'est un découpage du temps, un découpage des heures, et qui est en même temps un rangement et un découpage des savoirs. Et quand on étudie, par exemple, les curriculums français du secondaire depuis la fin du XIXe, il y a une continuité des étiquettes disciplinaires qui est absolument extraordinaire. Hein. Alors j'ai bien dit les étiquettes. À l'intérieur, il y a évolution et changement. Mais on trouve à peu près constamment les mêmes équilibres. Hein. L'école, c'est un champ de compétition entre disciplines scolaires. Bon, ça, nous le savons tous. Hein. Il n'y a pas que les institutions de formation qui sont des champs de compétition. L'école aussi. Hein. Et que donc, on voit quoi? Le déclin des langues anciennes, du latin et du grec, et puis la montée en puissance un tout petit peu des langues secondes, hein, des langues étrangères, et puis un tout petit peu des sciences. Mais sinon, on a une très très grande stabilité. Mais tout ça, ça nous donne un certain rapport au savoir. Que cette distribution de la connaissance en années, en progression annuelle, et nous savons tous, quand nous affrontons cette question dans nos situations de formation, que construire une progression en histoire ou en géographie, heureusement en histoire, on a la sacro-sainte continuité chronologique, mais qui n'est ni une progression intellectuelle, ni une progression de complexité. Hein, l'Égypte ancienne, elle n'est pas plus compliquée, ou elle n'est pas plus simple, plus exactement, que le XIXe siècle. Enfin, je suppose, hein, je ne suis pas spécialiste d'égyptologie, mais enfin, on peut imaginer que... Donc, on a nos progressions, mais on sait bien qu'on s'affronte à ça dans la formation des enseignants, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Alors, heureusement, au secondaire, on a des bons programmes qui nous construisent, hein, ces progressions. Mais tout ça, ça construit une certaine image du savoir disciplinaire. Regroupement des élèves en âge, hein, ils sont en principe, ils avancent régulièrement, les uns, en principe dans l'ordre, hein, avec une avancée donc annuelle de ce petit monde, et puis le primat donné à l'écrit, l'importance d'une culture écrite et qui va à la fois des manuels, les manuels qui sont censés faire l'état de la connaissance à un moment donné, et on voit bien que sur l'Europe, c'est drôlement compliqué. Et puis l'écrit qui est censé aussi être une des modalités privilégiées d'évaluation. Hein, et toute notre forme scolaire fonctionne sur ces éléments-là. Alors si j'insiste là-dessus, c'est bien pour dire quelque chose là aussi que ceux qui me connaissent savent que ça vient souvent dans mes propos. Nous n'enseignons pas l'Europe, nous enseignons un objet scolaire, nous construisons une Europe scolaire. Parce que nous construisons quelque chose qui doit rentrer dans cette forme, qui doit pouvoir être enseignable vu l'âge des élèves, et en plus qui doit pouvoir être apprenable par eux, hein, si je prends la trilogie de Chevalard, et qui doit être aussi évaluable. Il nous faut des savoirs qu'on puisse évaluer, parce que la règle de fonctionnement de l'école, c'est aussi une évaluation régulière. Hein, et c'est un des problèmes posés d'ailleurs pour l'éducation à la citoyenneté, autour par exemple de la note de vie de classe. Alors cette forme, elle construit les savoirs enseignés, elle construit les rapports que les élèves établissent avec ces savoirs, et ce que disent ces chercheurs, c'est aussi, et qui me semble le plus important dans ce rappel, c'est qu'elle est un mode de socialisation, c'est-à-dire une certaine manière de faire entrer les élèves dans la société, de les faire entrer dans un certain nombre de savoirs, de normes, de comportements, et y compris de comportements intellectuels. Hein. La discipline, on appelle ça discipline. La discipline, c'est deux choses. C'est aussi bien le fait des comportements corporels, discipliner son corps, et c'est aussi discipliner son esprit. Hein. Et rentrer dans un champ de savoir, c'est acquérir une certaine discipline de l'esprit. Donc c'est bien aussi un mode de socialisation au sens le plus plein du terme. Et tout ce que je vous ai dit précédemment doit, j'espère, vous avoir inquiété ou posé, mais vous le rencontrez, nous le rencontrons dans nos enseignements, cette idée que ce mode de socialisation, il est déstabilisé, il est en train de changer, et on en recherche d'autres, hein, et que cette forme scolaire, on voudrait un peu, par moment, la dépasser, hein, introduire autre chose. Mais on voit bien aussi à quel point c'est lourd, à quel point c'est fort, et nous avons tous l'expérience, hein, de la difficulté qu'il y a à construire des projets, à construire des approches polydisciplinaires, à collaborer avec les collègues. Enfin bon, je pense que tout ça, ça fait partie du lot quotidien que nous avons tous. Rassurez-vous, à l'université, on collabore pas beaucoup non plus. Alors, orientation, ça a été dit d'ailleurs dans le tour de table, vers des savoirs ouverts, vers des débats, vers des désaccords. Et bien, oui, il y a des choses que nous pouvons aider nos élèves à construire, mais pas forcément à résoudre, hein, à la différence peut-être d'un certain nombre de problèmes en maths ou en sciences. Les problèmes de société sont des problèmes politiques, hein, je reviens sur ce terme que j'évoquais tout à l'heure, et donc ces problèmes politiques, la résolution, elle ne peut pas se faire en classe. Ou peut-être peut-on poser, hein, déjà, construire ce problème et voir différentes possibilités. Donc des objets étudiés à la croisée des disciplines, tout en sachant aussi qu'il y a toute une série de, comment dirais-je, de savoirs, de ressources, de compétences qui ne sont pas dans nos disciplines. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que nos questions de société, elles ne sont pas disciplinaires, hein. Alors je ne parle pas de l'économie ou bien d'autres choses. Alors, je termine avec la présentation de quelques thèmes qui me semblent importants à travailler aujourd'hui, hein, et qui sont peut-être au travail chez les uns et chez les autres. Le premier, c'est une, j'allais dire aussi, c'est une vieille question, puis qui a été laissée de côté et tout, mais qui était déjà à l'ordre du jour dans les années 70. Hein, là encore, pardonnez mes cheveux blancs. Je ne suis pas encore un jeune retraité comme Yvan, mais ça ne va pas tarder. Donc, un impensé de l'histoire et de la géographie, un impensé relatif peut-être, mais nous manions dans nos disciplines des savoirs. Alors, j'ai mis registre, dimension, parce que le terme change suivant les moments, qui sont de l'ordre du social, du politique, de l'économique, du culturel. Hein, dans un article de Diogène, Ricoeur montre bien comment les historiens décomposent le réel en registre et ensuite qu'ils recomposent. Et dans ce travail de décomposition, eh bien, il se fait, je dirais, très spontanément, il se fait au gré des informations que l'on traite. Hein. On va pas, par exemple, mettre à jour de façon explicite toute la question du modèle de l'individu rationnel, également informé, qui construit toute la vision de l'économie qu'on essaie de nous faire partager. Hein, que, comme quoi il y aurait des individus rationnels et que nous serions tous également informés dans nos choix économiques. Deuxième thème, la question des acteurs. Alors, c'est quelque chose qui a peut-être là aussi, enfin qui a traversé au moins en arrière toute une série de mes propos. Je ne sais pas si vous l'avez repéré en tant que tel, mais une des grandes questions, ce sont les acteurs, hein, c'est-à-dire les Européens. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'objet de nos passions, c'est l'objet de nos divergences, c'est l'objet de nos conflits. Alors, on voit bien une histoire téléologique, hein, et je renvoie là à la recherche que Nicole Tutiou-Guillon avait mené à bien sur l'enseignement de l'Europe. Hein, les choses s'enchaînent, et tout notre enseignement de l'histoire, il est quand même très massivement de ce type-là. Hein. J'aurais pu vous citer dans un des derniers ouvrages de Philippe Roth, il y a le héros qui dit grosso modo que l'élection de Lindbergh, qui est pro-allemand à l'élection présidentielle, a surgi comme un événement, comme quelque chose qui bouleverse tout. Alors que, et il dit, c'est complètement à l'envers par rapport à notre histoire, à l'enseignement de l'histoire à l'école, parce qu'enseignement de l'histoire à l'école, les choses s'enchaînent. Hein. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de hasard. Il y a des causes. Hein, il y a des causes-conséquences, et nous avons un modèle qui s'enchaîne comme ça. Il y a les causes de la Première Guerre mondiale, les conséquences, et tout ça s'enchaîne très bien. Hein. Où sont les acteurs, où est la liberté de choix, hein. Je laisse la question évidemment entièrement ouverte. Alors, mon propos est très réducteur, nous essayons tous, dans nos modestes lieux de travaux, de dépasser ce genre de choses, mais je pense que c'est des questions qui seraient intéressantes à affronter en commun. Géographie aux acteurs discrets. J'ai cru entendre dans quelques propos, les géographes, ils parlent des villes, ils parlent des réseaux, ils parlent des territoires. Où sont les humains qui s'affrontent, où sont les enjeux politiques, les enjeux sociaux de ces territoires et de ces éléments. Alors je ne doute pas là encore que certains géographes les introduisent, mais là encore, quand on regarde, bon, par exemple Emmanuel, qui ne sont pas l'enseignement, hein, bon. Et puis l'éducation à la citoyenneté, qui est souvent très institutionnelle. Alors voilà, hein, la fin de la diapo, la place de la diversité, des conflits d'intérêts. Comment introduire cette idée ? Et la formation citoyenne, elle est là aussi, voire prioritairement presque. Hein. C'est penser une société, non pas comme une sorte de vivre ensemble mou, comme je disais tout à l'heure, mais comme un lieu où il y a des conflits d'intérêts, de croyances, d'opinions, d'attentes, de besoins, de reconnaissance. Vous pourrez rajouter tout ce que vous voulez, mais on est bien dans une société conflictuelle, dans une société d'affrontement. C'est peut-être une position personnelle, je l'assume. Troisième et avant-dernier propos, je vais essayer de... Bon, les relations entre enseignement disciplinaire, enjeux société, questions sociales. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne vais pas reprendre le contenu de cette diapo. J'en arrive juste pour conclure, avant de vous montrer trois images sur le... Conclure, on va traverser l'Atlantique et on va prendre les trois compétences qui sont censées... être celle de l'enseignement de l'histoire et de l'éducation à la citoyenneté au Québec, dans le dernier programme du Québec. Donc les trois compétences, vous les lisez. La troisième, construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. Et il me semble qu'un des dilemmes dans lequel nous sommes placés, dans la construction, là encore, de nos manières de raisonner et d'élaborer, de mettre en œuvre nos situations didactiques, soit nous posons en premier le fait que l'enseignement de l'histoire est par nature citoyen. Hein, on dit l'histoire, c'est la citoyenneté. Et puis en plus, je dirais qu'on a un lourd passé sur le sujet. Hein. L'histoire, elle a été mise dans les systèmes scolaires pour construire des identités collectives. C'est pas, on peut tourner autour du pot, mettre autre chose. Il faut considérer ce fait d'abord, me semble-t-il. Et puis on procède donc à une analyse a priori. Et puis on va choisir, construire, mettre en œuvre des objets enseignés, mais dans cette idée qu'il y a une sorte d'état naturel, hein, d'état intrinsèque de l'histoire. Ou bien on renverse, et on pose en premier les compétences citoyennes, et on va analyser ce qui, dans l'enseignement de l'histoire, peut contribuer à la construction de ces compétences. C'est-à-dire que l'histoire n'est plus en soi citoyenne, mais simplement, c'est un ensemble de ressources qu'on va utiliser dans cette perspective de construction de compétences citoyennes. Alors, là encore, c'est très vite dit, le débat peut être mille fois prolongé et tout, mais il me semble important et intéressant de voir comment, justement, les Canadiens sont dans cette tension. Alors, quelques images pour terminer. Les deux premiers, alors bon, c'est pas en couleur pour vous, hein, c'est extrait d'un ouvrage, et évidemment j'ai oublié de vous prendre la référence, elle est sur un autre PowerPoint. C'est un ouvrage à destination des enfants qui s'appelle « L'Europe est une femme ». Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cet ouvrage, c'est l'idée de la comparaison. Et l'idée de la comparaison sur un certain nombre de thèmes. Alors je vous montre juste deux diapos sur l'idée du portrait et comment un thème comme la question du portrait ou la question de la lecture peut être traité différemment par des artistes différents, de différentes époques, etc. etc. Et si je vous montre ça, c'est bien dans cette idée de comparaison, c'est-à-dire de voir comment un thème peut être traité, peut être, et on peut transférer ça en histoire et en géographie, bien évidemment, hein, mais comment il y a une diversité possible, une diversité de fait dans ces traitements. Et puis, puisque je viens de Suisse, je me suis intéressé au regard des autres sur la France. Alors, je vous montre quelques images. Oui, j'ai pas toujours maîtrisé mon scanner. Voilà Monsieur Jacques Chirac, l'ancien président de la France. Et vous habitez là depuis longtemps, dit-il. Hein. Et ça, c'est l'image que les Suisses renvoient de la France. C'est un pays extrêmement prétentieux. Enfin, nous sommes un peuple extrêmement prétentieux et où effectivement, on va se pencher sur les petits Suisses. Voilà. Deuxième image plus récente. Je parlais de sécession des élites. Monsieur Tsonga s'installe bientôt en Suisse, hein, je vous informe. Il gagne trop d'argent pour pouvoir rester en France. Donc admirons nos tennismans, il n'y a pas de problème.
C'est pas la sécession, c'est la cécité.
Oui, avec optique 2000, oui, mais non, justement, maintenant, il voit clair, et c'est pour ça qu'il peut aller s'installer en Suisse. Autre image, c'est évidemment les stéréotypes, hein, qui sont, puisque la clope est bannie des lieux publics, voilà comment le français transforme son amour de la cigarette, et puis vous y reconnaissez le béret, etc. Et là aussi, je pense que certains d'entre vous le pratiquent, hein, travailler sur les stéréotypes réciproques, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et pertinent avec nos élèves. Alors, l'image de l'autre et ce que dit ce paysan. Alors, évidemment, un Suisse, c'est quelqu'un qui vit dans les prairies, dans les montagnes et dans les vaches, hein, ou avec les vaches, plus exactement. Encore là, il n'a pas de montre et pas de chocolat, on l'a échappé belle. Donc, il vit, je vis dans la banlieue de l'Europe, je suis méprisé par les Français, mais je ne brûle pas de voiture. Hein. Là aussi, vous voyez l'image. Alors, j'ai pas résisté, puis je m'arrêterai là parce que ça suffit comme ça. Je n'ai pas résisté à notre président. Voilà comment les Suisses, enfin, comment certains dessinateurs suisses imaginaient déjà en 2002 la manière dont le pouvoir était exercé par certains personnages. Voilà. On me voit et on m'entend. Comment? Bon, je crois que ça se passe. Deux commentaires. Merci.
2002,
hein, oui, hein, c'est pour ça que je vous l'ai mis, hein. Président Gling Gling, hein, voilà. Donc, oui, maintenant c'est Bling Bling, mais enfin, on reste dans une onomatopée qui est assez proche. Voilà, merci, excusez-moi, j'étais un tout petit peu long par rapport au temps.